Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Babel Pongo Massimango.
Bonjour. Les humanitaires et le gouvernement provincial du Tanganyika s'engagent à trouver des solutions durables aux problèmes de sécurité, de santé et d'éducation qui connaissent les déplacés dans cette région. Un accord a été signé hier avec le secrétaire général adjoint de Nations Unies aux affaires humanitaires en visite sur place. Nous ferons le point dans ce journal. Un autre engagement à signaler se solide hier par les partis et regroupements politiques ainsi que les candidats indépendants aux élections en RDC. À travers le code de bonne conduite signé hier au Palais du Peuple, ils promettent d'aller en compétition dans la fraternité en bannissant les antivaleurs. Le dossier de ce jour est consacré à la situation tendue ces jours-ci à l'OGFREM, l'office de gestion du fret multimodal, où l'intersyndicale a appelé un arrêt de travail depuis lundi. Nous commençons à Kalemie, dans la province du Tanganyika, pour parler de la visite de travail effectuée hier par le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence des Nations Unies, Mark Lowcock. Objectif, évaluer les besoins humanitaires des personnes déplacées internes vivant dans la région. Cette visite s'est soldée par la signature d'un protocole d'accord entre les humanitaires et le gouvernement provincial. François-Xavier Mibé.
Les deux parties s'engagent à œuvrer pour une solution durable aux problèmes que rencontrent les personnes déplacées internes dans la région. Parmi les problèmes évoqués se retrouvent ceux liés à la sécurité dans les milieux d'origine, à la santé et à l'éducation des enfants. Le gouverneur de la province du Tanganyika, Richango Kitangala.
Nous espérons également qu'il va cet accord contribuer de manière significative à renforcer la coordination et l'harmonie dans la réalisation des actions humanitaires ou de développement que nous sommes appelés à poser en faveur des personnes affectées.
Cette signature intervient après la visite successive du sous-secrétaire général aux affaires humanitaires avec toute sa délégation dans deux camps de déplacés internes de Katanika et celui de Kalunga. C'est environ 9 000 ménages de Katanika et 13 000 autres de Kalunga qui expriment des besoins d'assistance. La coordonnatrice humanitaire est signataire du protocole d'accord, Kim Bolduc.
Je vous remercie aussi de donner autant d'importance au développement. Là, nous partageons une conviction commune. Nous ne pouvons pas avoir l'action humanitaire sans nous préoccuper du développement. C'est le futur de la province, c'est le futur du pays.
Kalemi, François-Xavier Mibé. Radio Kapi.
La province de l'Ituri est en passe de connaître une crise alimentaire dans un avenir proche. C'est l'inspecteur provincial de l'agriculture, pêche et élevage qui le déclare. Ce qu'on fait hier à Radio Kapi, Lokadi Vonda Tabahi explique cela par le fait que le territoire de Djougou, considéré comme le cliné de la province, est presque vidé de sa population. Pendant ce temps, les massacres se poursuivent dans cette partie du pays. 41 personnes ont été tuées par des assaillants dans la seule nuit de lundi à hier mardi dans de nouvelles attaques dans les territoires de Djougou. Ce drame s'est déroulé dans trois villages de la collectivité de Baïmanor et dans un autre de Walindoutati. Des sources coutumières locales confirment ce bilan tel que nous le décrit ici Martial Kiza Biamongo.
Les villages attaqués sont Kayuba, Djogbi dans Baïmanor et Ngaliko dans Walindoutati. À Kayuba, des hommes portant armes blanches et fusils ont commencé par incendier des maisons d'habitation. Selon Pilo Molindois, les chefs de Baïmanor, trois groupes d'assaillants munis de flèches, de machettes et de fusils AK-47 se sont ensuite livrés au carnage. Bilan, 19 morts. La même opération s'est déroulée dans la localité de Djo au groupement Los Andrema. Ici, ils ont tué 10 personnes avant de se diriger au village Jagbi, où ils ont abattu 10 autres civils dans les mêmes circonstances d'après les sources coutumières. Dans la localité Ngaliko, dans Walindoutati, cette fois-ci, des assaillants venus d'un village voisin ont tué des personnes et une autre a été amenée dans une destination inconnue, selon le chef du groupement Budo, cité par le président de la communauté Lendou. Des sources locales affirment que les soldats FARDC présents dans toutes ces localités ont reculé face aux tueurs, ce qui rejette les porte-parole de l'armée à l'Ituri. Le lieutenant Gilles Ngongo préfère parler de simples voleurs qui ont tenté de sentir deux maisons sans y arriver. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
La MONUSCO confirme son appui logistique au FARDC pour lutter contre les exactions qui se commettent dans le territoire de Djougou. C'est le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies pour les opérations et l'état de droit en RDC, David Christie, qui l'a dit lundi soir à Bounia. C'était à l'issue de son entretien avec le vice-premier ministre de l'Intérieur, Henri Moubassakani. David Christie, au micro de Sadiki Aboubakar.
Nous sommes venus ici pour discuter avec son Excellence de la situation actuelle dans les tueries, surtout dans le territoire de Djougou. On a eu un bon échange avec lui et son équipe. On a discuté le rôle que la MONUSCO peut aussi jouer pour accompagner le gouvernement dans ses efforts. Aussi donner notre accord pour donner un appui logistique pour ses efforts.
Et c'est quoi exactement ce rôle que la MONUSCO devra jouer?
Déjà, nous avons déployé notre force sur le terrain et on va rester là-bas pour la durée nécessaire. C'est aussi notre réserve qui a été basée à Kisangani est venue ici pour déployer. Ça va faciliter l'accès sur le terrain pour certains endroits. Et on va continuer avec nos efforts de la résolution de conflits, une équipe des affaires civiles qui est sur place. Donc ce sont le genre des choses qu'on peut envisager dans cet effort.
Et quittons l'Ituri pour le Nord Kivu. La situation sécuritaire reste inquiétante sur la chefferie de Bachou, territoire de Béni. La société civile continue à réclamer le remplacement des militaires du régiment déployés dans cette chefferie, les accusant de plusieurs faits, dont meurtre des civils et incapacité à lutter contre l'insécurité qui règne dans la région. Moïse Kipoutoulou, premier vice-président de la société civile de Bachou, explique ici au téléphone de Christian Mapendano.
La chefferie de Bachou est toujours précaire suite à l'assassinat qui est en train d'être observé ces derniers temps. Il y a un certain monsieur héritier, habitant de Kitara, qui a été assassiné par un groupe d'hommes non autrement identifié. J'ai dit passé, il y avait eu un cas d'assassinat d'un certain monsieur Mango Cosmas. Il a été abattu par un militaire de la deuxième classe, appartenant à l'unité de 1100, deuxième régiment qui est basé à Boulambo. On est en train d'alerter les autorités quant à ça. Des enquêtes se poursuivent, mais sans résultat. Et si tout qui sort, qu'il n'y a pas des éléments effarités du 2100, deuxième régiment, nous avions recommandé au gouvernement de relever date 38 de régiment afin que la population puisse continuer à vaquer librement à leur activité, que le gouvernement puisse nous amener l'unité qui peut être capable de collaborer avec la population afin que la population puisse s'impliquer comme il le faut, sans avoir peur.
Notez qu'il y a près d'un mois, la cour militaire garnison de Boutembo Béni avait condamné à mort un militaire pour le meurtre d'un civil de cette chefferie. Une soixantaine d'acteurs venus du Nord, du Sud Kivu, de l'Ituri et de Kinshasa évaluent depuis hier à Goma l'acte d'engagement qui a sanctionné la conférence sur l'appel au développement d'il y a 10 ans à Goma. Ce forum de la société civile du Nord Kivu, en partenariat avec l'initiative pour un leadership cohésif, se veut en cadre d'évaluation du chemin parcouru jusque-là. Alors quel est l'impact de ce forum quand on sait que le gouvernement et les groupes armés signataires de cet acte d'engagement n'y prennent pas part? Élément de réponse avec vous, Bernardin Nyangui.
L'acte d'engagement signé le 23 janvier 2008 annonçait la cessation immédiate des hostilités, particulièrement dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Il était signé par les délégués du gouvernement, ceux des groupes armés, de la société civile et des représentants de la communauté internationale, entre autres. Au vu de l'évolution de la situation 10 ans après, Maître Omar Kavota, membre de la société civile et un des participants, reste sceptique quant à l'impact de ce forum.
Lorsque cet acte d'engagement a été signé, il se comptait une trentaine de groupes armés à province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Mais à ce jour, l'espace de fluence de ces groupes armés s'est étendu. Ici, nous sommes en train d'évaluer à l'absence des acteurs majeurs. Il y a risque qu'on n'évolue pas.
Le vice-gouverneur de la province de l'Ituri, lui, reste ouvert. Il souligne que ce forum est une approche à essayer. Pacifique et Keta ou par.
Ce n'est pas qu'on soit à côté des groupes armés pour qu'on trouve une solution, mais nous devons utiliser les personnes influentes et qui peuvent jouer un rôle important par rapport à l'approche que nous allons prendre au cours de ces assises.
Les organisateurs espèrent produire à l'issue de ce forum qui va durer 4 jours un plan d'action succinct sur la sensibilisation pour la paix dans les 4 provinces de l'Est de la RDC. Goma, Bernard Nyangui, Radio Okapi.
Les partis politiques, regroupements politiques et les candidats indépendants aux élections en RDC ont signé hier au Palais du Peuple à Kinshasa le code de bonne conduite. Conformément à l'article 21 du code, les partis politiques et personnalités signataires se sont engagés à bannir les antivaleurs. C'est notamment le mensonge, la calomnie, la corruption, la diffamation, les injures publiques et la haine. Les signataires s'engagent à entrer en compétition dans un esprit de fraternité. Le président de la CENI, Corneille Nanga, explique l'importance de ce document au micro de Jeff Ngo.
Ces documents ont circulé pendant une année. Il a reçu les amendements des uns et des autres. Et aujourd'hui, on a consacré la signature. C'est l'occasion de féliciter les acteurs, les partis politiques, opposition et majorité, qui se sont vraiment liés à la signature de ces codes de bonne conduite, qui portent sur les droits, sur les obligations et surtout l'observance de la loi en ce qui concerne le processus électoral. C'était aussi l'occasion d'échanger avec les partis politiques pour les mettre au point, pour faire un état des lieux. Nous sommes partis de loin. Aujourd'hui, nous sommes très avancés et lentement et sûrement, nous nous approchons du but. Le seul objectif qui est devant nous tous maintenant, c'est le 23 décembre et nous travaillons pour ça.
La NOGEC, nouvelle génération pour l'émergence du Congo, appelle à un remaniement urgent du gouvernement. Dans une lettre adressée hier au président Joseph Kabila, ce mouvement citoyen lui demande de prendre des mesures équitables d'harmonisation politique avant la tenue des élections. Pour la NOGEC, cette demande est consécutive aux bouleversements politiques constatés ces derniers jours. C'est notamment les secousses au sein de la majorité présidentielle, avec par exemple l'annonce surprise d'un divorce politique entre le parti Lumumba signifié Palou et la MP, mais également la friction soumis entre les leaders du RASOP Kasavubu, Maître Constant Mutamba, président national de la NOGEC, au micro d'Innocent Linga.
La notoriété de l'accord de la Saint-Sylvestre, au regard des chambardements intervenus dans le rang de ses signataires, s'en trouve intentionnellement affectée au point qu'elle impose l'ultime nécessité de rechercher immédiate et imminente d'un compromis politique réévalué sur le processus électoral. C'est au vu de cela que nous nous exigeons du chef de l'État des mesures urgentes, notamment la participation des différents partis politiques et plateformes politiques à la gestion des institutions politiques et publiques mérite d'être reconsidérée et nous appelons à un remaniement d'urgence et total du gouvernement parce que tous ceux qui ont quitté par exemple la majorité présidentielle doivent en même temps libérer les postes politiques. L'actuel Premier ministre ainsi que certains ministres n'ont plus de soubassement aussi bien politique que juridique pour autant que tous ont dû créer leurs plateformes respectives qui n'ont rien à voir avec le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement.
Autre nouvelle politique en bref, sachez que le PPRD a rendu public hier la liste de 6 nouveaux secrétaires permanents adjoints appelés à seconder le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari. Il s'agit de Willy Bakonga, Béatrice Lomea, Lucas Kassongo-Mwadiamvita, Willy Ngopos, Ferdinand Kambéré et Jacqueline Pembe. Janine Mabunda devient présidente de la Ligue des femmes du PPRD en remplacement du Tchelamwana. Tunda Yakasinde et Micheline Kilumba rejoignent quant à eux le bureau politique du parti. Du côté de l'opposition, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont échangé hier. D'après le président de l'UNC, cette rencontre s'inscrit dans la perspective de la mise sur pied d'une grande coalition électorale. Dans la même journée, une délégation du Palou, composée de Lugui Gizenga et Adolphe Mouzito, a eu un tête-à-tête avec l'UNC représenté par Vital Kamerhe et Baudouin Maillot pour le même objectif. Le Canada s'engage à verser 650 millions de dollars canadiens, soit environ 600 millions de dollars américains, en faveur de la promotion de l'égalité homme-femme dans un certain nombre de pays africains dont la RDC. L'ambassadeur canadien l'a annoncé hier à Kinshasa au cours d'un forum organisé en marge du mois de la femme et auquel ont pris part des partenaires de la mission diplomatique de ce pays, les ONG nationales et internationales ainsi que des agences onusiennes. Les propos de Nicolas Simard, recueillis par Honoré Missinga-Kalala.
Le Canada reste déterminé dans son engagement en RDC pour répondre aux besoins les plus immédiats, mais également dans une perspective à plus long terme pour identifier les éléments qui permettront le développement durable du pays. L'organisation de ce forum aujourd'hui nous offre réciproquement une occasion pour partager les connaissances, les leçons apprises et meilleures pratiques pour une intégration effective de l'égalité entre les sexes dans les différents programmes financé par le Canada en RDC. J'espère que les échanges qui découleront des différentes présentations pourront permettre aux uns et aux autres d'identifier les meilleures façons de maximiser la participation de la femme, de la fille et de l'adolescent dans vos initiatives respectives pour le développement durable et la croissance inclusive de la RDC.
Actualité Afrique Monde.
Au Sénégal, c'est en principe aujourd'hui que reprend à Dakar le procès de plus de 30 personnes soupçonnées d'avoir cherché à mettre en place un réseau djihadiste sur le territoire sénégalais. Parmi elles, l'imam Dao, en prison depuis 2 ans pour des prêches radicaux. Notez que ce procès a déjà été reporté 2 fois. En Grande-Bretagne, Noble Marara, un ancien garde du corps de Paul Kagame exilé depuis 2002, a été prévenu le week-end que de nouvelles menaces de mort pesaient sur lui. La police britannique l'a rencontré pour étudier avec lui les mesures nécessaires à sa protection. Noble Marara lit cette menace, notamment la traduction en Kinyarwanda de son livre « Derrière le rideau présidentiel » jusque-là disponible uniquement en anglais. Le Nigeria fait face cette année à une épidémie sans précédent de fièvre de Lassa. Le Centre national de contrôle des épidémies parle de 365 personnes contaminées cette année, 114 sont décédées. Des chiffres records depuis la découverte de cette fièvre hémorragique en 1969 dans le nord-est de ce pays. La maladie est transmise par les sécrétions d'un rat. Aux États-Unis, Donald Trump a limogé hier à travers un tweet le secrétaire d'État Rex Tillerson. Il l'a remplacé par l'actuel directeur de la CIA, Mike Pompeo. Interrogé sur les raisons de ce limogeage, le président a notamment mis en avant des désaccords de fond, en particulier sur le dossier nucléaire iranien. Rex Tillerson quittera son poste le 31 mars à minuit. Notez que Trump a par ailleurs annoncé la nomination de la première femme à la tête de la CIA. Il s'agit de Gina Haspel, qui a acquis sa participation passée au programme de torture de la CIA après le 11 septembre pourrait valoir une audition de confirmation assez délicate devant le Sénat. Radio-Pogrampi.